D'abord, merci de votre présence. Ce n'était pas un week-end parmi les plus faciles avec ce pont du 11 novembre qui a empêché pas mal d'amis qui nous avaient fait part de leur intérêt, les empêcher de participer à cette conférence. Mais heureusement, il y en a 9, donc ceux qui ne seront pas venus à celle-ci pourront venir aussi aux autres. Donc bienvenue à cette deuxième conférence d'un cycle de 9 sur 2 ans, qui est organisée par l'association Neufond. Donc l'association Neufond, elle est présente sur Clermont-Ferrand depuis une vingtaine d'années à peu près. Elle a un site internet, vous pouvez taper Neufond et vous trouvez directement sur ce site. Et parmi ses activités, elle exerce des activités de formation humaine. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons cette conférence. C'est un cycle de conférences qui a été bâti par des laïcs chrétiens. Qui se veulent d'abord des citoyens responsables, sans réponse toute faite. Et le but de ces conférences est de nous aider à ouvrir un petit peu nos réflexions sur des questions de fond qui concernent notre société. Une société dont on va dire qu'elle se cherche. Et sous l'éclairage de la pensée sociale de l'Église. Cette conférence s'adresse à un public le plus large possible. Il suffit de se sentir concerné par les problèmes de société, chrétien ou pas, mais avec un esprit ouvert et curieux, et de tous âges. Donc ces 9 conférences se veulent très incarnées, c'est-à-dire que nous cherchons des conférenciers qui sont reconnus pour leurs compétences sur les sujets qu'ils vont traiter, et également reconnus par leur enracinement de chrétien. Ce cycle de conférences, nous l'avons donné un titre. Et après moult réflexions, nous sommes tombés sur redonner de l'espoir à une société en souffrance. Les gilets jaunes, comment aller plus loin? En effet, la crise actuelle, dont le mouvement des gilets jaunes incarne l'un des aspects, révèle les symptômes d'une société développée qui doute d'elle-même, qui a besoin d'être réinventée. Crise sociale, crise économique, crise politique. Crise de sens. Quel que soit le jugement que l'on porte sur cette crise, elle exprime un écart entre ceux qui vivent un mal-être grandissant, voire une vraie peur de l'avenir, et une société perçue comme servant des intérêts particuliers, éloignée d'inspiration individuelle, parfois non nommée, et éloignée de la prise en compte de certains besoins élémentaires. L'énormité du défi dépasse nos capacités, nos forces. Et pourtant, chacun d'entre nous se sent partie prenante de cette société. Le fait de se sentir partie prenante, c'est une chance. Et ça ouvre beaucoup d'opportunités qu'il nous faut saisir. Et face à ce défi, la pensée sociale de l'Église offre des perspectives. Pour tous, chrétiens ou non chrétiens. Et nous pensons qu'au cœur de cette crise tellement multiforme se pose la question de la manière dont est prise en compte l'individu dans la société. C'est pourquoi nous posons la question globalement, peut-il y avoir un développement durable sans que la personne soit au centre de ce développement? La première conférence a été donnée au mois d'avril par un philosophe, Henri Hude, et le sujet était « Un nouvel humanisme est-il nécessaire ?» Est-il possible ? Et sous-titre, réconciliation et responsabilité. D'ailleurs, le texte de cette conférence est disponible sur le site de Neufond, avec également les questions-réponses qui ont suivi, qui étaient très intéressantes. Et pour cette deuxième conférence, nous accueillons Vincent Aubin, que je remercie.
Merci.
Donc Vincent est agrégé de philosophie, ancien élève de l'École normale supérieure. Il enseigne l'anthropologie à une école de management de Marseille qui s'appelle l'EMD. Il a publié diverses études de philosophie, en particulier en philosophie médiévale, en philosophie politique et en théorie de l'action. Et actuellement, il travaille beaucoup sur la notion de bien commun. Et il proposera d'ailleurs un cours libre, public, au Collège supérieur de Lyon à partir de janvier prochain. Et donc, parmi ces termes de recherche, c'est le bien commun est-il encore un sujet pertinent? Quel sens lui donner maintenant? Et donc, je vous rappelle le titre de sa conférence d'aujourd'hui, « Le grand retour du bien commun, le défi de l'amitié sociale ». La séance se déroulera en trois temps. Le premier temps, la conférence de Vincent, dont je veillerai à ce qu'elle ne dépasse pas une certaine longueur. On se dit...
Que j'espère ne pas découvrir au moment du coup d'arrêt.
Non, mais j'ai des petits papiers, tu verras. Non, mais au plus tard, à 9h30, c'est plié quand même. Voilà. Parce qu'il faut laisser la place aux questions. Et donc, si tu peux laisser un peu plus de place qu'une demi-heure, ça sera bien, parce qu'on voudrait terminer la deuxième partie, donc les questions-réponses, à 10h. De façon à ce que la troisième partie, la troisième mi-temps, ait lieu à partir de ce moment-là, et qu'on se retrouve tous ensemble autour d'un pot et d'échange, en particulier avec notre conférencier. Vous avez tous reçu, j'espère, un papier comme ça, pour faire part de vos remarques. Hein.
Pour noter le conférencier.
Noter le conférencier.
J'ai bien compris.
Le speaker, il n'y a pas de notation du speaker, donc ça va. Hein.
Vous pouvez rajouter une ligne quand même. Ouais.
Donc merci de prendre le temps, parce que ça nous aidera. Après celle-ci, il y en a sept autres, donc il nous faut à chaque fois pouvoir améliorer. Donc il y aura un temps prévu, donc vous ne sortirez pas d'ici avant que ce soit rempli, et puis on ramassera les copies. Il y aura des boîtes à la sortie pour le faire. Et puis dernier point, la conférence est enregistrée, ainsi que les questions-réponses. Donc vous pourrez aussi retrouver ça d'ici quelques semaines sur le site de Neufond. Voilà, j'ai terminé mon boulot pour cette première partie. Je passe la parole à Vincent Aubin, et bonne soirée à tous.
Merci. Merci, cher Dominique. Je suis ravi d'être ici ce soir à Clermont-Ferrand en arrivant de Lyon, mais j'ai des liens familiaux qui manquent à Clermont-Ferrand, et je suis très content de commencer ce long week-end qui sera familial en compagnie d'amis et de personnes qui sont, puisque nous sommes là pour célébrer l'amitié sociale, de personnes qui, j'en suis sûr, deviendront des amis. Alors, j'ai proposé comme titre à l'exposé de ce soir « Le grand retour du bien commun » parce que il y a encore une vingtaine d'années, un lieu commun de la science politique voulait que l'avènement de la société moderne et de la démocratie libérale nous ait fait passer définitivement de l'âge du bien commun à celui de l'intérêt général. Vous pouvez lire, par exemple, dans le rapport annuel du Conseil d'État consacré en 1999 à la notion d'intérêt général, on pouvait lire que l'intérêt général se situe depuis plus de 200 ans au cœur de la pensée politique et juridique française en tant que finalité ultime de l'action publique. Et le rapport expliquait doctement « Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'idée d'intérêt général a progressivement supplanté la notion de bien commun aux fortes connotations morales et religieuses qui, jusque-là, constituait la fin ultime de la vie sociale. Exit le bien commun, désormais bon pour rejoindre le musée archéologique des idées politiques défuntes, quelque part entre le droit divin des rois et l'empire colonial, probablement. Or, par un de ces retournements dans l'histoire à le secret, voilà que depuis une décennie se multiplient les signes d'un grand retour du bien commun. Souvent, d'ailleurs, favorablement opposé à l'intérêt général. Où est passé le bien commun ? Se demandait en 2008 le philosophe François Flahault dans un essai brillant publié au lendemain de la crise financière de 2008. Où est passé le bien commun ? Tout le monde, désormais, semble avoir une réponse à proposer. Ainsi, pour prendre quelques exemples récents, en 2016, l'économiste Jean Tirole, tout récent lauréat du prix d'économie décerné par l'Académie Nobel, souvent appelé prix Nobel d'économie, publie un énorme ouvrage de 600 pages, « Économie du bien commun ». La même année, à Paris, une chaire « Bien commun » a été créée à l'Institut catholique de Paris, à l'origine de divers colloques, publications, qui témoigne du souci des catholiques de redonner une légitimité intellectuelle à cette notion de bien commun qui trouve son origine chez les penseurs chrétiens du Moyen-Âge. Mais l'intérêt pour le bien commun déborde largement les cadres confessionnels. J'ai lu récemment sur la plateforme Ouzbek Erika, plateforme dédiée à l'innovation sociale et solidaire, fortement marquée à gauche, une longue étude significativement intitulée « De l'intérêt général au bien commun ». Retour du trajet considéré comme définitivement accompli en 1999 par le Conseil d'État. Et on pourrait continuer. L'hebdomadaire La Vie, plutôt étiqueté chrétien de gauche, publie très régulièrement en ce moment des articles pour montrer l'actualité, la pertinence de la notion de bien commun. Et au même moment, le mensuel de l'Action française change de nom pour s'appeler désormais Le Bien commun. Nous avons un président de la République qui est probablement celui de tous les présidents récents qui parle le plus souvent de bien commun dans ses discours, ce qui lui fait au moins un point commun, si je puis dire, avec Jean-Luc Mélenchon, autre adepte du bien commun, qui tweetait récemment « Nous croyons au bien commun, au service public, au monopole public pour le rail, les barrages, l'électricité, l'école. Le monopole est souvent le moyen de l'efficacité. » Tout ça pour dire que, manifestement, le bien commun, en tout cas l'appellation, est devenu extrêmement consensuel. Et on peut se demander d'où vient cet enthousiasme, cet intérêt soudain pour le bien commun. Dans le cadre du cycle de conférences auquel nous participons, une partie de la réponse est assez évidente. L'inquiétude pour le bien commun renaît au moment où nous sommes forcés de nous demander ce que nous avons encore en commun, c'est-à-dire ce qui fait encore de nous une société. La concomitance est assez frappante. Le bien commun fait son retour au moment où se multiplient les constats d'une société fracturée et morcelée. Le premier essai du géographe Christophe Guilly, publié en 2010, s'intitulait « Fracture française ». Et le constat n'a pu qu'être conforté par le récent succès de Jérôme Fourquet, son livre « L'archipel français », sous-titré « Naissance d'une nation multiple et divisée ». Par ailleurs, dans un autre registre, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un essai d'un journaliste reporter qui s'appelle Sébastien Junger et qui s'appelle significativement là aussi « Tribu, le retour du guerrier » et dont j'extrais cette citation « L'être humain n'a pas peur des moments difficiles, en fait ils lui permettent de prospérer. Ce qu'il redoute, c'est le sentiment d'être superflu. La société moderne maîtrise à la perfection l'art de donner aux gens l'impression qu'ils ne servent à rien. Il est temps que ça cesse. » Alors, est-ce que la tribu est la solution ? Probablement pas, en tout cas c'est pas ce que je pense, mais l'évocation des appartenances auxquelles on voit que beaucoup de jeunes sont sensibles, appartenance tribale, appartenance communautaire, permet au moins de dépasser un diagnostic trop facile, moralisateur, consistant à dire « le bien commun est perdu parce que les gens sont égoïstes ». Je ne crois pas. On est une société dans laquelle les gens cherchent parfois désespérément des occasions, des moyens, des lieux pour se donner, pour partager, pour s'engager. Simplement, ils le font plus volontiers à l'échelle de la tribu qu'à l'échelle de la société globale. Et donc, mon diagnostic, qui n'est évidemment pas original, c'est que le retour du bien commun, même si c'est sous forme un peu incantatoire, s'explique en partie, au moins, par un besoin, voire par une urgence politique. Et il y a une urgence politique parce que la politique, dans son sens le plus noble, celui dont nous avons aujourd'hui un besoin criant, la politique, c'est l'activité qui vise à faire tenir ensemble des volontés humaines. Et nous parlons du bien commun parce que, d'une façon ou d'une autre, nous sommes nombreux à sentir que nos volontés ne tiennent plus ensemble, que nous n'arrivons plus à vouloir quelque chose en commun. Nous parlons du bien commun parce que nous craignons que la communauté nationale ne soit en train de mourir dans nos âmes. et parce que nous ne nous résignons pas à satisfaire au sein d'une tribu notre besoin de servir à quelque chose. Alors, mon propos ce soir est de réintroduire le concept de bien commun. Et ici, le mot important, c'est concept. Ça va devenir pénible. Parce que le concept, c'est l'affaire du philosophe. La question du bien commun, je le crois, pour nous, elle est devenue double. Il y a la question pratique. Comment faire pour promouvoir le bien commun ? Comment, que décider qui sera conforme au bien commun ? Question pratique qui se pose à quiconque doit prendre une décision quand il a la responsabilité d'un ensemble humain, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une famille, d'une entreprise, d'une association ou d'un État. C'est la question pratique. Et le philosophe est notoirement incompétent pour résoudre ce genre de problème, c'est-à-dire pour donner des bons conseils aux décideurs, voire pour décider à sa place. En revanche, le philosophe peut servir à quelque chose pour l'autre problème, le problème théorique. Quand François Flahaut demande dans son essai « Où est passé le bien commun ?», on peut entendre qu'il dit « Où sont passés les gens qui sont en charge du bien commun ? Comment se fait-il que si peu de gens s'intéressent au bien commun ?» Mais la question est plus radicale. On se demande où est passé le bien commun parce qu'on ne sait pas à quoi il doit ressembler. Et comment chercher quelque chose dont on n'a pas le signalement ? Quelque chose, on pourrait peut-être passer à côté et ne pas le reconnaître. Si je vous demande où est passé le vistamboire, vous seriez bien en peine de m'aider à le chercher si je ne vous donne pas un signalement du vistamboire. Eh bien, le rôle du philosophe, ce n'est pas de dire le bien commun dans telle situation, c'est ceci ou cela, mais c'est d'essayer de donner un signalement qui nous permettra au moins, qui pourrait permettre aux décideurs, par exemple, de savoir vers quoi tourner leur regard. Nous sommes dans une situation où, le bien commun ayant perdu de son évidence, les avis devenant de plus en plus divergents, la responsabilité du philosophe, sa contribution propre au bien commun, si je puis me permettre, est de nous aider à retrouver l'usage de ce concept. Et la première question, c'est évidemment de se demander si ce concept de bien commun n'est pas un concept vide. On nous rappelle sans cesse que c'est un concept qui vient de l'Antiquité, mais qui a été élaboré, théorisé spécialement par des théologiens du Moyen-Âge et tout spécialement par saint Thomas d'Aquin. Or, la principale caractéristique de la notion du bien commun telle qu'elle est mobilisée par ces penseurs, c'est qu'elle est apparemment vide, totalement indéterminée. La notion de bien commun a été formulée pour exprimer la visée fondamentale de l'art politique, tel que les anciens, Aristote notamment, l'avaient compris. Aristote, au début de l'éthique à Nicomaque, a cette phrase que Thomas d'Aquin aimera citer : « Le bien est assurément aimable pour un individu isolé, mais il est plus beau et plus divin appliqué à une nation ou des cités. » Plus beau et plus divin. Il faudra y revenir un peu. Et c'est encore Aristote qui dit que le tyran se distingue du bon gouvernant par le fait qu'il recherche son bien privé, son avantage personnel, celui de son clan peut-être, plutôt que le bien de la multitude qui lui est confié. Alors de là, nous pouvons tirer une description encore toute formelle du bien commun. D'abord, le bien commun, c'est le bien d'une communauté, d'une société, dirions-nous aujourd'hui, qui peut être d'ailleurs aussi bien une famille qu'une cité, qu'une entreprise, qu'un État. À chaque communauté, à chaque ensemble humain qui doit tenir ensemble, son bien commun caractéristique. Deuxièmement, le bien commun est un concept politique, si l'on entend par politique au sens large, toute action qui vise à créer, à maintenir ou à faire prospérer un ensemble humain organisé en vue d'une coopération régulière. Il y a en ce sens une politique dans la famille, faite de suggestions, de propositions, de négociations, parfois de crises à surmonter pour continuer à tenir ensemble, comme il y a une politique municipale, comme il y a une politique dans l'entreprise. Partout où il y a des volontés humaines aux intérêts potentiellement divergents, il doit y avoir une politique visant à les rassembler, à les faire concourir vers un but commun. Et que veut dire en outre que le bien commun est un concept politique ? Cela veut dire qu'il sert à guider la décision. Ce n'est pas un concept descriptif, ce n'est pas un concept théorique. Quand Aristote dit que le tyran est celui qui cherche son intérêt privé plutôt que le bien de la multitude qui lui est confié, il décrit la décision, les décisions du tyran. Par contraste, il décrit la décision du bon gouvernant, qui est « cette décision a été prise pour le bien de la multitude, éventuellement au détriment de son propre avantage, de l'avantage de sa famille, de son clan, de ses amis, de gens à qui il doit rendre des faveurs ou qui lui en doivent, etc. » Donc, le concept, et c'est cette idée qui devra nous guider, elle va disparaître un peu et revenir dans un deuxième temps de l'exposé, le concept est un concept qu'on doit appeler pratique. On parle du bien commun parce qu'il s'agit de savoir que doit viser, vers quoi doit tendre celui qui a à prendre une décision. Bien, une fois qu'on a dit ça, qu'a-t-on dit ? Je dirais, on a dit quelque chose dans la mesure où c'est toujours bien de rappeler, même à quelqu'un qui a conscience de ses responsabilités, que dans telle et telle situation, il doit penser au bien commun. Et plus quelqu'un est conscient de ce qu'il doit à l'ensemble qui lui est confié, et plus l'exhortation aura des chances de porter du fruit. Néanmoins, on peut dire que, décrit de cette manière-là, la notion de bien commun est totalement indéterminée. Elle peut devenir incantatoire, elle peut nous sembler parfaitement vide. Alors, la tentation à laquelle je pense qu'il faut résister, ce serait de vouloir surmonter, sur un plan général, sur un plan théorique, cette indétermination du bien commun. Ma thèse, c'est que l'indétermination du bien commun, elle est insurmontable quand on en reste au plan général, et qu'elle est surmontable dès qu'on se situe sur le plan d'une décision particulière. Alors, il me semble que ceux qui aujourd'hui en appellent au bien commun ont le tort de vouloir précisément surmonter cette indétermination en donnant un contenu positif, concret, si possible universellement valable, au bien commun, pour pouvoir dire « le bien commun, c'est ça ». Et donc, vous voyez, ce décideur, ce gouvernant, il fait mal parce que le bien commun, c'est ça, et il n'a pas fait ça. Alors, je vais retenir, je vais passer, même un peu trop rapidement pour leur faire justice, sur deux versions, je vais évoquer deux versions, deux manières de vouloir surmonter l'indétermination du bien commun. Une version que l'on pourrait appeler la version maximaliste et puis la version minimaliste. La version maximaliste, c'est celle qui considère que le bien commun est évident. Peut-être pas évident pour tout le monde, mais évident au moins pour, par exemple, la partie la plus saine de la société, la partie élue, ceux qu'à l'époque de Robespierre, on appelait les patriotes, qu'on aurait pu appeler à un autre moment le prolétariat ou le peuple. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que le bien commun, c'est le monopole public pour les transports, par exemple, l'électricité, l'éducation, il se rattache à une longue tradition qui peut remonter à certains passages, en tout cas, de l'œuvre de Rousseau, pour laquelle le bien commun est évident, il apparaît avec évidence à la partie la plus saine de la population. Et ceux qui ne voient pas que c'est ça qu'il faudrait faire, eh bien, c'est pas qu'ils ont un avis divergent sur le bien commun, c'est qu'ils ne se soucient pas du bien commun. Ils ne s'en soucient pas parce qu'en réalité, ils ne pensent qu'à eux, ils sont des ennemis du peuple. Il y a dans cette version, alors on pourra dire, par exemple, le bien commun, c'est la collectivisation, le monopole. Le bien commun, c'est la laïcité. Le bien commun, c'est la redistribution. En tout cas, à chaque fois, on aura une idée claire de la chose à promouvoir absolument, de toute urgence, et à laquelle tout le monde doit s'appliquer. Alors, il y a dans cette version maximaliste une part de vérité. La part de vérité, c'est celle qui correspond aux situations d'urgence. Par exemple, lorsque la patrie est en danger, ou lorsque nous devons faire face à une catastrophe naturelle de grande ampleur. Ces situations exigent la mobilisation, la concentration de tout le corps social dans un seul but. Et ce sont dans ce genre de moment que le bien commun devient clair et évident pour tout le monde. Si dans l'immeuble où je travaille, les bureaux, etc., un incendie se déclare, il est évident que toutes les autres affaires deviennent secondaires et que la seule chose à faire collectivement, c'est de lutter contre l'incendie. Quelqu'un qui dirait qu'il n'a pas le temps de lutter contre l'incendie parce qu'il a un rapport à terminer, ou que dans l'immeuble où ça brûle, le plus important, c'est quand même d'obtenir que le locataire du troisième range enfin sa poubelle, eh bien, on pourrait le considérer à juste titre comme indifférent au bien commun et devant probablement être écarté de la circulation pour que les gens qui sont conscients de leurs responsabilités puissent faire face à l'urgence. Donc, dans la vie d'un peuple, il y a des situations d'urgence comme celle-là, qui peuvent être des catastrophes militaires, des catastrophes naturelles, qui peuvent d'ailleurs être aussi des situations heureuses. Certains ont vécu la victoire de l'équipe de France en 1998 comme un moment de d'effervescence collective dans lequel il y avait une sorte d'évidence que quelque chose nous rassemblait. Et bien entendu, il est typique de la rhétorique maximaliste de faire comme si la patrie était constamment en danger. Et donc il fallait constamment rester mobilisé. De là le besoin, comme en France à l'époque de la terreur, sous la Révolution, de signaler en permanence des complots de l'intérieur, des complots réactionnaires ou la menace d'une invasion étrangère. Parce que c'est le seul moyen de continuer à focaliser les volontés sur l'objectif commun. Mais on m'accordera peut-être que cette version maximaliste mérite d'être considérée comme indésirable, potentiellement tyrannique, dans les périodes moins troublées de notre histoire. Ces périodes où le danger n'est pas clair et évident pour tout le monde, et où nous pouvons même avoir, si nous considérons que la période est troublée, ce qui peut s'admettre, des opinions divergentes sur le ou les dangers auxquels nous devons faire face. Par conséquent, cette version maximaliste du bien commun, elle devient contraire au bien commun, précisément parce qu'exigeant que toutes les volontés convergent vers un seul but, ou proposant une solution unique à tous les problèmes que nous rencontrons, elle empêche les gens ordinaires de vaquer à ces occupations qui sont bien nécessaires à la marche, à la pérennité de la société, comme les activités consistant à, élever des enfants, faire marcher une entreprise, faire tourner une association, etc. Et donc, cette version s'avère indésirable, intenable, précisément parce qu'elle se révèle en période, je dirais, de paix, absolument hostile au bien commun. Et ce constat que nous ne pouvons pas entraver les activités ordinaires qui permettent précisément à la société de subsister est ce qui justifie la version minimaliste en matière de bien commun. Les gens s'occupent ordinairement à des affaires qui sont chacun les leurs, avec des intérêts, avec des convictions, avec des croyances qu'ils peuvent partager avec certains et sans doute pas avec d'autres, ou peut-être pas avec la majorité de leurs concitoyens. Si la première version consistait à dire que le bien commun est évident, la deuxième, au fond, consiste à dire qu'il est introuvable. Pourquoi il est introuvable ? Pour une raison bien connue des lecteurs de Jeremy Bentham, un des fondateurs du libéralisme au XVIIIe siècle, qui dit « Qu'est-ce donc que l'intérêt de la communauté ? La somme des intérêts des différents membres qui la composent. » Au XXe siècle, Margaret Thatcher a donné une formulation plus frappante à cette idée quand elle demande « Qui c'est la société ?» Ça n'existe pas, la société. Il y a des individus, hommes et femmes, et il y a des familles. Autrement dit, là aussi, je crois qu'il y a une part de vérité à reconnaître dans ce diagnostic d'une divergence des intérêts, et le mieux étant que chacun puisse vaquer à ses intérêts sans être entravé par les autres et encore moins par l'État. La part de vérité c'est que la société, dans le monde moderne, ne correspond à rien dans l'expérience sensible, dans l'expérience quotidienne de l'individu ordinaire, qui ne connaît sensiblement que sa famille, son entreprise, son milieu d'existence, qui est beaucoup plus restreint que la société. La société n'est pas pour nous une entité aussi tangible que pouvait l'être la cité grecque, hein, pour le citoyen de Sparte ou d'Athènes, qui la voyait dans des banquets ou dans des grandes fêtes civiques. Alors, s'il n'existe rien comme la société, en effet, le bien commun est introuvable. Ou alors, il se résorbe entièrement dans le bien des individus qui sont dans la société. Et l'art politique, minimal, devient alors l'art de satisfaire le maximum d'intérêts individuels ou de frustrer le minimum d'intérêts individuels sans jamais prendre parti sur la valeur intrinsèque de ces intérêts. C'est évidemment la version libérale, au sens classique du terme, qui professe cette vision minimaliste de l'action de l'autorité, qu'elle soit d'ailleurs de l'autorité de l'État ou de l'autorité de groupements intermédiaires. C'est cette solution libérale que défend l'économiste Jean Tirole dans son grand livre, dans son gros livre, hein, en se réclamant du philosophe américain John Rawls, qui a essayé de réactualiser au XXe siècle l'idée du contrat social. Je ne vais pas développer ce point parce que il faut qu'on avance, mais nous reconnaissons la formule libérale dans l'idée que si on doit parler de bien commun, ça doit être uniquement sous la forme d'un certain nombre de libertés formelles, sans aucun engagement de la part de l'autorité sur ce que les libéraux appelleront des biens substantiels. Nous pouvons être en désaccord sur la manière de vivre, la manière d'élever les enfants, la manière de se marier, de ne pas se marier, sur la religion qu'il faut professer. Nos intérêts divergent, nos convictions divergent. Le bien commun, s'il existe, doit consister uniquement à laisser chacun libre de professer en la matière les opinions qui lui conviennent. Et par conséquent, l'autorité doit se limiter à garantir le droit formel de chacun à vivre comme il l'entend. Alors, je crois que cette version libérale, état minimal, droit, liberté, s'abstenir de toute intervention, de toute décision impliquant une prise de position substantielle sur ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce qui est désirable ou ce qui est indésirable, cette version du bien commun, je pense, échoue à rendre compte des attentes légitimes des gens à l'égard notamment de l'autorité politique. Dans la mesure où même les gens qui vaquent à leurs activités ordinaires, les entreprises, les écoles, les universités, les familles, et qui sont très contentes qu'on ne les empêche pas de fonctionner comme elles l'entendent en temps ordinaire, vont avoir besoin régulièrement d'arbitrer des conflits, de régler des différends, de régler des prétentions rivales. Et nous nous tournons à ce moment-là vers l'autorité publique, précisément comme vers un arbitre de nos différends. Le plus libéral d'entre nous, je crois, est bien content de pouvoir s'adresser à une autorité qui va dire dans tel ou tel cas, eh bien, c'est un tel qui a raison, et dans tel ou tel cas, c'est plutôt un autre qui a raison. Autrement dit, l'autorité publique, je crois, dans nos sociétés, dans toutes les sociétés humaines qu'on peut imaginer, je le crois profondément, revêt nécessairement deux visages. Il y a le visage qui pouvait se dégager quand on évoquait l'état d'urgence. C'est l'autorité qui est meneuse, qui est entraîneuse, l'autorité du leader dont on a besoin pour fédérer des volontés, pour faire face à un besoin clair et évident du corps social. En latin, on dirait que c'est la figure du dux. Du conducteur, on pourrait dire. Et puis, le pouvoir politique, la souveraineté, a une autre face, plus pacifique, on pourrait dire, qui est la face de l'arbitre, du pacificateur, du garant, de celui vers lequel on se retourne, lorsque de temps en temps nous avons besoin de répartir des droits et des devoirs, des récompenses et des punitions, des dettes et des créances. À la figure du doux, du meneur, il faut ajouter la figure qu'en latin on appellerait celle du rex, de celui qui tient ensemble, qui fait tenir ensemble. C'est-à-dire que nous devons, pour penser la responsabilité propre de l'autorité publique, politique, combiner ensemble, si vous voulez, pour prendre les images d'Épinal, à la fois Napoléon au pont d'Arcole, et puis Saint-Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes. Ce sont les deux faces de la souveraineté. Et je crois que la société française aujourd'hui est précisément en attente de ce genre d'arbitrage. Nous ne sommes pas profondément en attente, je parle pour moi, quelques autres j'espère, d'un chef, d'un meneur qui nous galvanise en disant « le danger est là » ou « l'ennemi est là, battons-nous contre ». Nous avons besoin d'un arbitre qui assume ses responsabilités, qui arrive à fixer des priorités en faisant consensus, par une parole qui sait se faire reconnaître comme étant juste dans la situation. Et ce qu'on appelle aujourd'hui souvent le populisme s'explique, je crois, largement par cette attente légitime à l'égard du pouvoir politique. Cette attente d'un arbitre qui assume ses responsabilités. Cette attente d'une autorité régulatrice, garante de la justice. Celle dont on arrive à se passer quand chacun peut vaquer à ses occupations quotidiennes, mais dont on a besoin lorsque les différends ou les conflits éclatent. Alors, ces deux versions symétriques également insatisfaisantes nous renseignent sur la nature de notre problème. Nous avons un problème pour concevoir le bien commun parce que nous avons du mal à concevoir ce qu'est une communauté ou une société. La communauté, la société dont ce bien commun serait le bien. Nous ne voulons pas de la version maximaliste, nous ne nous contentons pas de la version minimaliste. Nous ne voulons ni la société collectiviste entièrement tournée vers un seul but, ni la société, si on peut encore l'appeler comme ça, totalement atomisée. Notre problème est donc ce qu'on pourrait appeler en termes savants, un peu effrayants, un problème d'ontologie sociale. Existe-t-il dans la réalité, et non seulement dans la pensée, dans l'idée, autre chose que des individus ? Existe-t-il une société ? Et je me tourne maintenant vers celui à qui on reconnaît la paternité de la notion même de bien commun, à savoir Thomas d'Aquin. Parce que, contre toute attente, en tout cas lorsqu'on a été prévenu par le discours disant que la notion de bien commun appartenait à une conception totalement dépassée de la vie sociale, alors je tiens à dire juste, pardon, je vais dépasser les 15 minutes qui me sont données. Parce que j'avais prévu de parler une heure, je vais essayer de faire un peu plus court. Si je vois que tout le monde pique du nez, je baisserai la voix progressivement et je m'éclipserai sur la pointe des pieds, mais je n'arriverai pas à tenir 15 minutes. Voilà, donc ça va. Mais tu peux ressortir ton papier dans 15 minutes. Alors, je disais... Thomas d'Aquin peut nous donner des moyens, je ne vais pas faire un cours érudit sur Thomas d'Aquin, je vais dire ce que j'ai trouvé de nourrissant, de substantiel dans son analyse de la vie sociale. Thomas d'Aquin n'est pas un penseur individualiste. Thomas d'Aquin n'est pas quelqu'un qui pense que le bien commun, c'est simplement un ensemble de conditions à rassembler pour que les personnes ou les individus puissent atteindre leur bien propre. Tout simplement parce que Thomas d'Aquin n'envisage pas une seule seconde que le bien commun puisse être subordonné au bien individuel. Il tient fermement à cette pensée d'Aristote que le bien commun est plus divin que le bien particulier. Et ma question, c'est, pouvons-nous donner du sens à cette idée un peu étrange ? Je crois que oui. « Je vais parler de communauté en étant conscient que le mot aujourd'hui a pris une connotation un peu embarrassante. Le mot communauté, quand on parle de la communauté asiatique, la communauté musulmane, la communauté homosexuelle, la communauté des gamers, hein, je sais pas, de tel ou tel jeu, etc., c'est une communauté qui rassemble des gens qui se ressemblent. C'est une communauté de la ressemblance, la communauté du même. C'est-à-dire qu'on appelle communauté des gens qui font la même chose, qui vivent de la même manière dans tel ou tel domaine, et qui, par conséquent, sont supposés avoir un intérêt commun qu'ils pourraient défendre. Eh bien, la vision que Thomas d'Aquin a de la communauté est exactement opposée à cette version de la communauté, si on veut, communautariste, fondée sur la ressemblance. On pourrait dire que pour Thomas d'Aquin, l'essentiel de la communauté, c'est la différence. Mais ça ferait un petit peu prêcha moderne sur les différences qui nous enrichissent. Et donc, il faut essayer d'être un petit peu plus précis. Qu'est-ce que Thomas d'Aquin appelle une communauté quelconque ? C'est un ensemble formé par des gens qui ont besoin les uns des autres pour réaliser au mieux une œuvre commune. Des gens qui ont besoin les uns des autres pour réaliser ensemble une œuvre commune. Et on peut préciser une œuvre commune qui a besoin que des rôles ou des responsabilités soient répartis pour être mené à bien. Saint-Thomas, il me semble qu'il a élaboré, c'est une hypothèse biographique que je ne pourrais pas justifier dans un colloque universitaire, qu'il a élaboré cette notion notamment dans son expérience des conflits qui ont agité l'Université de Paris lorsque, jeune dominicain, dans les années 50 du XIIIe siècle, il est arrivé à Paris. L'université était à l'époque entièrement entre les mains de maîtres séculiers, qui ont vu d'un très mauvais œil arriver ces religieux mendiants, franciscains, dominicains, qui vivaient de manière totalement différente de la leur, et qui, en outre, avaient tendance à avoir un certain succès auprès des étudiants, parce qu'ils étaient zélés, parce qu'ils étaient dévoués à leurs étudiants, parce qu'ils travaillaient dur, parce qu'ils n'avaient pas de bénéfices, peut-être, qui leur assuraient une rente de situation. Et les maîtres de l'Université de Paris ont voulu s'opposer à ce que des chaires universitaires soient attribuées, puissent être attribuées, au mérite évidemment, à ces religieux dominicains et franciscains. Et leurs arguments ressemblent étrangement aux arguments communautaristes actuels, puisqu'ils disaient « on ne peut pas travailler ensemble, ils sont trop différents, ils ne vivent pas comme nous, ils ne s'habillent pas comme nous, ils sont en bure, etc. » Et la Bible dit « tu ne laboureras pas avec le bœuf et l'âne ». C'est-à-dire que pour une même opération, il ne faut pas faire coopérer des espèces différentes. Que répond saint Thomas d'Aquin ? Ils arguent évidemment du fait que cette différence de mode de vie, de comportement, etc., ne pourront que faire naître des inimitiés, des conflits, des rivalités. Que répond Thomas d'Aquin ? Il répond qu'en gros, les séculiers, en l'occurrence, prennent la question à l'envers. Qu'il ne faut pas commencer par grouper des gens qui se ressemblent et ensuite se demander qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais il faut se demander ce qui est à faire et qui est compétent, qui a un titre à participer à ce faire. Autrement dit, il faut commencer par la question de la finalité. Dans le débat qui l'occupe à ce moment-là, la finalité, c'est l'enseignement. C'est la nature même de l'université qui est en train, à ce moment-là, de prendre conscience de sa dimension universaliste. Et saint Thomas demande, pour enseigner correctement à des étudiants, de quoi a-t-on besoin ? On a besoin d'étudiants, et puis on a besoin de professeurs, de maîtres qui discutent entre eux, qui cherchent ensemble la vérité, qui échangent leurs opinions, surtout s'ils ne sont pas d'accord, qui se challengent, comme on dirait aujourd'hui, en se mettant au défi, c'est la pratique médiévale de la question disputée. Et dans cette affaire, comment faire pour que cette œuvre commune soit réalisée au mieux ? Eh bien, c'est d'avoir, dans l'affaire, embarqué les gens qui sont qualifiés, les mieux qualifiés pour le faire. Si un séculier est qualifié pour le faire, eh bien, qu'il participe à l'université. Si un religieux est qualifié pour le faire, surtout, ne nous privons pas de sa coopération. Et bien entendu, Si l'université prend forme, s'organise, il faudra également vraiment des gens pour gérer les inscriptions, des gens pour s'occuper des cérémonies, des gens pour contrôler les identités à l'entrée. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas le plan Vigipirate, mais enfin, il y avait quand même des bedeaux pour filtrer les étudiants, de temps en temps faire taire les émeutiers, faire sortir les ivrognes. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires assez truculentes. Et par conséquent, l'université ne peut exister que parce qu'il y a une coopération de gens différents associés à une même tâche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une communauté, au fond ? Une communauté, c'est l'ensemble qui est créé par des gens qui, dit saint Thomas, communiquent entre eux. Mais pas communiquent au sens de la communication des communicants modernes. Communiquer, ça veut dire précisément faire une œuvre commune, réaliser quelque chose de commun, en apportant chacun une contribution différenciée. Un couple, des époux, sont en ce sens une communauté. Quand ils élèvent des enfants, il y a une répartition des rôles, des autorités, des attentes, et il y a une œuvre commune qui est réalisée, qui s'appelle la vie d'une famille. Une entreprise est en ce sens une communauté, parce que des gens différents, avec des fonctions différentes, communiquent, collaborent pour réaliser une œuvre commune qui peut être le bien, le service, le pneu, par exemple, auquel est vouée l'entreprise. Et de qui avons-nous besoin dans l'entreprise ? Eh bien, de ceux qui seront qualifiés pour nous aider à réaliser l'œuvre commune. Qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Cette communauté, pardon, je vais un petit peu trop vite, l'idée, l'intuition sociologique, si on peut dire, de Thomas d'Aquin, qui me paraît précieuse, c'est qu'une communauté donnée, famille, entreprise, société politique, elle est caractérisée par des types de communication, on va dire de relations structurantes, particulières, différenciées. La famille est caractérisée par la relation entre l'époux et l'épouse, et entre les parents et les enfants, et il ajoute, en suivant Aristote, également entre le maître de maison et les serviteurs, par exemple, les familiers. Trois relations structurantes qui constituent la vie d'une maison ou d'un domaine dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Probablement, dans une entreprise, il y aura d'autres types de relations structurantes. Dans une société humaine en général, il y a d'autres types de relations structurantes que l'on peut décrire si on a un œil anthropologique ou un œil sociologique. Dans telle société, eh bien, voilà ce que les gens attendent des gouvernants, voilà ce que les gouvernants attendent des gouvernés, voilà ce que les justiciables attendent de la justice, voilà ce que les voisins attendent légitimement les uns des autres, voilà ce qu'on attend des étrangers de passage ou résidents, et voilà ce à quoi ils peuvent s'attendre de notre part. Voilà comment nous traitons les hommes, comment nous traitons les femmes, comment nous traitons les enfants. Voilà la manière dont nous nous relions dans notre communauté spécifique aux morts ou aux dieux. Et dans tous les cas, la description de ces relations structurantes permet de caractériser le type de société auquel nous avons affaire. Eh bien, la grande idée thomiste du bien commun, c'est que le bien commun n'est rien d'autre que le bon état de ces relations structurantes. C'est-à-dire, le bien commun, c'est quand ces relations marchent bien. Quand chacun tient volontiers la part qui lui revient dans la communication, dans la relation à laquelle il appartient, étant admis que chacun d'entre nous est un pôle d'une multiplicité de relations. Je suis un fils pour mes parents, un frère pour mes frères et sœurs, je suis un collègue pour mes collègues, je suis un passant peut-être pour ce malheureux qui gît sur le trottoir. Serais-je le Lévite, serais-je le Samaritain pour lui ? Quelle relation, quel pôle de quelle relation je vais assumer à son égard ? La notation la plus éclairante de Thomas d'Aquin que j'ai trouvée, celle qui m'a fait, en tout cas à moi modestement, comprendre ce que j'ai cru comprendre du bien commun sur saint Thomas, chez saint Thomas, c'est une remarque qu'il fait en passant sur une prescription de la loi mosaïque. Cette prescription de la loi qui concerne ce qu'on appellerait en ancien droit français le droit de grappillage, c'est-à-dire le fait qu'on a le droit de prendre, en passant dans une vigne, les grains de raisin tombés après la vendange. même si on n'est pas le propriétaire de la vigne. Et Thomas d'Aquin dit « Cette disposition contribue au bien commun, car elle habituait les membres du peuple juif à se laisser emprunter volontiers et à donner volontiers. Elle les rendait facile communicativus, prompts à la communication, à la relation. C'est l'aisance des relations structurantes de la société qui caractérise le bien commun, leur fluidité. Dans une entreprise, le bien commun de l'entreprise, c'est quoi au fond ? Celui dont l'autorité de l'entreprise a la charge. Eh bien, c'est que leurs relations qui structurent l'entreprise soient fluides, soient aisées, que le service qui doit apporter à tel autre service la prestation A le fasse volontiers. Et on sait très bien quand ça n'arrive pas, quand on retient l'information, quand on diffère la communication, quand on fait les choses au dernier moment, quand on se garde bien de partager avec le collègue du service d'à côté l'information précieuse dont il aurait besoin, lorsque, inévitablement dans ce contexte, des petites cliques apparaissent au sein du groupe et qui, chacune, cherche jalousement à protéger son pouvoir, cherche à incorporer de nouveaux membres pour agrandir son influence dans le groupe. On est dans la situation que Rousseau décrit, j'ai oublié de prendre le texte avec moi, lorsque le nœud social se défait et que à ce moment-là, les petites sociétés particulières commencent à conspirer contre le bien commun. Eh bien, la tâche propre de l'autorité, c'est d'être la garante du nœud social, de ce qu'on pourrait appeler aussi l'amitié sociale, c'est-à-dire cette disposition de chacun à remplir volontiers, de bon cœur, le rôle qui lui revient dans les multiples relations par lesquelles il s'insère dans la grande société. Une société va mal quand ses relations sont grippées, quand à la place de la confiance s'installe la méfiance, quand on ne sait pas à quoi s'attendre de la part de l'autre, lorsque, plus globalement, toutes ces relations structurantes nous paraissent confuses, que nous ne savons plus à quoi elles servent ou à quoi elles doivent ressembler. L'autorité politique est la garante du bien commun parce qu'elle est la garante de ce nœud social, de cette amitié sociale. Comment est-ce qu'elle remplit ce rôle concrètement ? C'est ce à quoi je vais m'occuper dans les 10 minutes dans lesquelles je veux continuer à parler, sauf si vraiment on me coupe le micro. Nickel, ça correspond à mon chronomètre. Alors, comment est-ce que l'autorité publique, au fond, contribue au bien commun ? Est-ce qu'elle a en charge d'instaurer une société juste en tout point ? Une société qui serait entièrement conforme à un modèle idéal qu'on pourrait concevoir dans son fauteuil en réfléchissant à la société idéale. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce projet de société idéale ait un sens, qu'il ait une pertinence, et je crois encore moins que la responsabilité de l'autorité publique soit de chercher à conformer l'ordre social existant à un modèle conçu par l'esprit. La responsabilité déjà très lourde de l'autorité sociale est de faire en sorte que dans la société existante, la confiance règne pour que les relations soient les plus aisées et donc les plus fécondes possibles. Comment elle le fait ? Je crois que le plus important, le plus décisif, la garantie fondamentale du bien social, c'est évidemment la justice. La responsabilité propre de l'autorité publique, c'est de faire régner la justice dans la société qui lui est confiée. Et tout à l'heure, je parlais en commençant du critère, le bien commun, comme critère de la décision juste. Je voudrais essayer d'expliquer un peu en quoi le bien commun, qu'on a considéré comme très indéterminé, peut être un critère de la décision juste. J'ai écarté un modèle de la justice qui consisterait au fond à dire qu'il y a une règle, définie, évidente, universellement valable de la justice, qui fait que la décision est juste si elle est conforme à cette règle. Alors je vais prendre un exemple un peu simplet pour m'expliquer. On pourrait décréter par exemple que, en matière de rémunération, la justice consiste à rétribuer en fonction du mérite de chacun, de la contribution qu'il a apportée à l'œuvre commune. Par conséquent, si A a produit 1 et que B a produit 1,5, eh bien, la justice, c'est que B reçoive 1,5, là où A va recevoir 1. Et on pourrait dire, ça, c'est la justice. Le problème, c'est que si on veut appliquer cette règle universellement, si on prétend avoir une règle de justice universellement valable, la décision appliquée selon cette règle sera souvent, et à juste titre, perçue comme injuste. Il ne peut pas y avoir de règle universelle de justice au sens d'une règle positive qui dirait, en chaque circonstance, qu'il faut décider comme cela. En revanche, il y a, je crois, dans chaque situation qui appelle une décision, un critère de justice pertinent. Il y a des situations, des structures dans lesquelles le critère de justice est effectivement le mérite. Il y a d'autres situations, d'autres structures dans lesquelles le critère de justice pourra être le besoin. Par exemple, je m'occupe d'une association qui donne du travail à des gens qui ont eu du mal à en trouver, et on pourra estimer juste, et à juste titre, je crois, que la rétribution ne soit pas proportionnelle à la quantité de travail fourni, qui pourra être très inégale en fonction, par exemple, du handicap, etc. Mais la rétribution sera proportionnée aux besoins de chacun. Celui qui a une famille avec deux enfants pourra toucher un, là où celui qui a trois enfants pourra justement toucher un et demi, parce qu'il n'a que son travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Bien entendu, dans d'autres situations, le critère de justice pertinent ne sera ni le mérite, ni le besoin, mais par exemple l'ancienneté. Ou par exemple la proximité du lien familial, qui va trouver injuste qu'une mère de famille pense d'abord à nourrir les siens avant de partager, je sais pas, le goûter, enfin, imaginez le scandale, avec les enfants du voisin. Même s'il se trouve que ceux-là ont besoin également d'être nourris, et peut-être qu'en plus ils sont plus méritants que les enfants en question. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que l'idée d'une décision juste n'a pas de solution si on prétend trouver un critère de justice universellement valable. Qu'en revanche, dans chaque situation particulière où il y a une décision à prendre, il peut y avoir un critère de la pertinence de la décision. Et que la responsabilité de l'autorité est de sélectionner le critère pertinent. Si je dois distribuer des portefeuilles ministériels, le critère pertinent, a priori, est la compétence des gens que je vais choisir, et non pas les services qu'ils ont rendus dans le passé au parti, et non pas non plus, peut-être, la proximité familiale qui m'unit avec eux. Personne ne pourra trouver ce choix justifiable, alors que si j'expose que le critère qui a guidé mon choix est la compétence, on pourra discuter sur le choix effectif que j'ai fait, au sens où un tel était moins compétent qu'un autre. Mais ce ne sera pas un conflit sur la justice. Ce sera un conflit sur la décision concrète qui peut être erronée. On n'aura pas un conflit de justice, en l'occurrence. Et donc, mon idée, c'est que l'autorité, quelle qu'elle soit, à quelques communautés qui président, qui, dans ses décisions, s'efforce d'observer le critère de répartition, le critère de partage, le critère de distribution pertinent, cette autorité est aussi juste qu'on peut l'être, et elle sert le bien commun aussi bien qu'il peut être servi. Je terminerai avec un peu d'avance, du coup, pour laisser la place à la discussion, par deux citations de Bertrand Jouvenel, un auteur un petit peu oublié aujourd'hui, mais que je trouve extrêmement précieux, et je me suis inspiré aussi pour une partie du propos de ce soir, parce qu'il a le don des formules frappantes, et que, méditant sur la justice, et je crois que ce qu'il dit de la justice vaut exactement pour la question du bien commun, ce qu'il dit sur la justice peut nous servir de conclusion. Il dit « Croire que l'autorité juste est celle qui instaure un ordre juste en tout point est le chemin des plus dangereuses folies. L'autorité est juste lorsqu'elle donne l'exemple de la justice dans toutes ses démarches propres, ce qui est bien difficile déjà. Les illusions que l'on nourrit, illusions d'un ordre absolument juste, idéal, etc., les illusions que l'on nourrit débouchent logiquement sur l'absurdité d'une société où tout serait juste sans que personne eût à l'être. » Il y a une idée extrêmement pertinente de Jouvenel. Nous parlons aujourd'hui de la justice comme d'un certain ordre de la société, une certaine manière de nous organiser. Et Jouvenel dit « Cette justice-là n'existe pas. Tout ordre social existant, satisfaisant à tel critère, pourra être critiqué à l'aune de tel autre critère. La seule justice dont nous devons parler avec du sens est la justice qui n'est pas un ordre instauré dans les choses, mais une vertu de l'âme. » D'où sa phrase paradoxale. Si nous croyons que la justice consiste à conformer la réalité à un idéal, nous aurions cette absurdité d'une société où tout serait juste sans que personne ait besoin d'être juste, d'avoir en soi la vertu de justice, celle qui permet, dans une situation donnée, de sélectionner le critère de répartition pertinent. Et je termine cette fois avec... je termine vraiment cette fois avec Jouvenel en disant « Le règne de la justice est impossible, conçu comme la coïncidence établie et continuellement maintenue de l'arrangement social avec une vue de l'esprit, coïncidence de l'arrangement social avec une vue de l'esprit, le règne de la justice est possible dans la mesure où l'esprit de justice préside à toute décision impliquant un partage. » C'est la contribution que je voulais apporter ce soir à l'élucidation de la notion de bien commun. Élucidation, je ne sais pas, vous conviendrez qu'elle laisse entièrement les questions pratiques intactes. Peut-être qu'on va pouvoir en parler. J'espère au moins avoir rendu compte de cette indétermination nécessaire de la notion de bien commun. Indétermination qu'il ne faut surtout pas chercher à combler en élaborant des programmes ou des listes de constituants du bien commun. La meilleure manière que nous avons, nous, aujourd'hui, de contribuer au bien commun, c'est évidemment de cultiver en nous l'esprit de justice. Merci beaucoup.